bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore salués. Nous reprenons donc, comme je vous l'ai dit, déjà j'ai fait les deux premiers chapitres de la première épître de Pierre, et donc nous allons poursuivre notre lecture avec le chapitre 3. Et je vais reprendre juste à la fin du chapitre 2, à partir du verset 21b, on va dire, le milieu du verset 21, puis nous allons lire ensemble le chapitre 3. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Donc le chapitre 3, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Excusez-moi, j'ai passé. Donc là, c'est la fin de ce que je viens de dire. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Encore une fois, frères et sœurs, quand on a un chapitre complet, on ne peut pas tout dire. Je l'ai déjà dit les fois précédentes, donc on ne peut pas tout aborder. Ce sont des chapitres qui sont assez riches. Des versets 1 à 7, Marie et épouse. Il me semble important de préciser que tout ce passage du verset 1 au verset 7 concerne les relations au sein du couple entre mari et épouse. Cela ne concerne pas les relations homme-femme en général dans la société. En effet, Pierre ne dit pas « Femmes, soyez soumises aux hommes », mais il dit « Mais à votre mari ». Et la version Darby précise « à vos propres maris, le vôtre, celui avec lequel vous vous êtes unis, pas au mari d'une autre femme et pas à un homme, quel qu'il soit, qui ne serait pas votre mari. » En Matthieu, au chapitre 19, Jésus répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le couple forme une entité particulière. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est cette relation intime de deux êtres que l'apôtre Paul va jusqu'à comparer à la relation entre Christ et son épouse. Cela se trouve en Éphésiens au chapitre 5. Marie et femmes, dans ce sens, ne doivent plus être considérées comme deux êtres différents et opposés, mais deux qui s'unissent pour ne faire qu'un seul. C'est bien sûr, certains diront, la vision idéale, mais c'est la vision idéale que nous sommes appelés à poursuivre. La femme comme l'homme doivent donc apprendre à vivre cette relation particulière, ce qui justifie les enseignements de Pierre et de Paul. Au verset 1 et au verset 7, on a cette expression donc, Pierre qui écrit « Femme, que chacune soit d'eux-mêmes soumise à son mari ». Et au verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse ». Ces deux expressions, donc « de même » et « à votre tour », sont traduites dans la version Darby par le même mot, le mot « pareillement ». Femme, pareillement, mari, pareillement. Et dans la version Second 21, ces expressions sont mises en évidence en les plaçant au début de phrase. Vous, de même, femme, soumettez-vous à votre mari. Et pour les maris, mari, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme. Cela met l'accent sur le fait que le mari et la femme, chrétiens, bien sûr, ici, il s'adresse à des chrétiens, hein, le mari et la femme chrétiens doivent vivre dans le même esprit, en suivant le même modèle qui a été présenté au chapitre précédent. Nous avions souligné d'ailleurs au chapitre 2, verset 13, la raison de notre soumission aux autorités, à cause du Seigneur. Et nous avons relu ensemble le verset 21 tout à l'heure, « Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Toute notre façon d'agir dans la société, dans notre travail, et dans le couple, homme ou femme, mari ou épouse, doit se faire à cause du Seigneur, en suivant son exemple. Et Paul dit en Philippiens 2:5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est toujours ça qui doit nous guider dans notre réflexion, quand on lit des passages comme on le lit au début du chapitre 3. Il est complètement exclu que Pierre, comme Paul, puisse approuver un système de domination de l'épouse par son mari. Il est clair que dans le monde, il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus d'hommes méchants et totalitaires. Mais les apôtres ne peuvent être tenus pour responsables des débordements d'hommes qui n'ont pas mis en pratique leurs enseignements. Et leurs enseignements, c'est Marie, au verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Et Paul dit aux Éphésiens, donc au chapitre 5, verset 25 et ensuite 28 à 29, « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Les deux font une seule chair. Donc le mari prend soin de sa femme et l'aime comme sa propre chair, comme Christ le fait donc pour l'Église. Paul conclut le paragraphe qui traite de ce sujet par ces mots, en Éphésiens 5, 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et l'on comprend donc que la soumission dont il est question est plus synonyme de respect que d'obéissance servile. La vie du croyant doit honorer son Sauveur et glorifier son Seigneur dans la vie de tous les jours, afin de porter un bon témoignage et ainsi d'amener d'autres à la connaissance de sa grâce et son amour. L'apôtre Pierre espère que la conduite des épouses converties amènera la conversion de leur mari. Mais pour le mari converti, l'objectif doit être le même pour son épouse qui serait inconvertie. L'amour dont il l'entoure, la mise à l'honneur qu'il lui témoigne, montre qu'il a compris que sa femme doit hériter avec lui de la grâce. Elle a autant de valeur que lui aux yeux de Dieu. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Tout cela est très important, bien sûr. Au verset 7, à la troisième partie du verset, qu'il en soit ainsi afin que, il est marqué, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il est important de faire ressortir cette phrase. L'apôtre dit clairement qu'un homme chrétien qui se comporte mal envers sa femme, qui la rabaisserait plutôt que de l'honorer, ne peut s'attendre à ce que Dieu réponde à ses prières. Notre comportement, en général, mais à plus forte raison envers celle avec qui nous nous sommes mariés, associés, impacte directement notre relation avec le Seigneur et peut entraver l'exaucement des prières. C'est une pensée à vraiment bien intégrer cette responsabilité que nous avons et que les hommes ont d'honorer leur épouse, de l'aimer comme Christ, parce qu'elle hérite avec de la même grâce. Elle a autant d'importance. Elle hérite de la même grâce que Dieu. On ne peut pas la rabaisser. Au contraire, elle doit être élevée. Et Paul dit en 1 Timothée 2,8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Comment un homme qui aurait frappé sa femme peut-il élever des mains pures devant le Seigneur, hein? Comprenez que cela n'est pas possible. Donc, ce sont toutes des choses à prendre en considération et à bien méditer. Et l'apôtre Jacques nous dit aussi quelle doit être l'attitude habituelle de l'homme. Dans Jacques, chapitre 1, versets 19 à 21. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il est donc évident que la colère, la méchanceté, le mépris doivent être chassés de relations conjugales. Le Saint-Esprit est là pour nous en délivrer. Versets 8 à 12, soyez tous animés des mêmes pensées. Cette attitude d'amour, de bienveillance, de respect, de soumission réciproque, de considération de l'autre comme héritant avec nous de la grâce de la vie, doit s'étendre à tout notre entourage et à l'Église, en particulier l'épouse de Christ. L'humilité est une attitude qui nous aide à rester dans la paix, à éviter les querelles. L'orgueil est souvent la cause des querelles et à cause du mépris aussi qui l'accompagne. Le psaume 123, verset 4, dit « Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Et Jacques dit au chapitre 4, verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les pensées et les sentiments qui doivent nous animer sont l'amour fraternel, la compassion, l'humilité, la volonté de ne pas rendre l'appareil, comme on dit, mal pour mal ou injure pour injure, la bénédiction, le fait de bénir. C'est ça ce qui doit être notre attitude en tant que chrétien. Paul dit aux Romains, chapitre 12, verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. » Si cela était facile, et si cela allait de soi, l'apôtre n'aurait pas besoin d'en faire la recommandation et d'insister. Au verset 7, Pierre avait dit qu'il y avait en quelque sorte des conditions à l'exaucement de nos prières. Ici, au verset 10, il utilise le « si » du conditionnel pour celui qui voudrait voir des jours heureux. Verset 10b et 11, et cette condition, c'est « qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Bien entendu, l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour nous sauver. Il nous a pris tels que nous sommes, et il nous a sauvés par le sacrifice de son Fils à la croix. C'est une chose sûre. Mais ce que l'apôtre semble nous dire, c'est que dans notre parcours sur la terre, notre façon de vivre et d'agir a des conséquences, des répercussions. Dieu, en nous sauvant, ne nous enlève pas notre responsabilité individuelle. Je dirais même que, par son esprit, il développe notre sens des responsabilités, notre conscience, pour nous inciter à rechercher la paix et la justice. C'est ce qui doit nous animer lors aussi de nos rencontres. En Hébreux 10, 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Et dans la version second 21, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Si nous ne le faisons pas, si nous ne suivons pas les conseils de sagesse que l'apôtre nous donne, que les apôtres nous donnent, nous risquons fort de subir dans nos vies les conséquences de nos inconséquences et de nos désobéissances. Bien sûr, il ne nous appartient pas, à nous, à chacun, de juger ce que vivent ou subissent les autres. Ça ne nous appartient pas de juger. Mais c'est à chacun de s'examiner soi-même pour en juger. Verset 12, les yeux et les oreilles du Seigneur. Car nous sommes tous au courant, enfin, tous les croyants le savent, Dieu voit tout, Dieu entend tout. Les versets 10 à 12 sont une citation du psaume 34, du verset 13 à 19. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? je pense tout le monde. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'apôtre cite ce passage et l'adresse à des croyants. Alors, qui sont les méchants? Est-ce que ce ne sont que les incroyants? L'apôtre nous met en garde afin que nous, qui nous déclarons croyants, chrétiens, nous ne nous comportions pas comme les méchants. Nous savons que Dieu voit tout, qu'il entend tout, mais nous pouvons l'oublier parce que nous ne le voyons pas devant nous. Veillons au mal que la langue peut faire. Jacques nous en parle au chapitre 3. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques était un responsable respecté de l'Église de Jérusalem. On peut deviner qu'il a vu les ravages que pouvaient causer les paroles mauvaises pour avoir un discours aussi enflammé. Versets 13 à 17, « N'ayez d'eux aucune crainte. » Depuis que le péché est entré dans le monde, le mal se manifeste. Nous ne devons pas nous en étonner et nous sommes appelés à ne pas craindre les attaques injustifiées, la méchanceté et même la persécution. Nous ne la recherchons pas, bien entendu. Mais Pierre nous dit que si nous souffrions pour la justice, nous en serions heureux. Difficile hein, à recevoir ça. Mais pourtant, c'est ce que Jésus avait enseigné à ses disciples. En Matthieu 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Et Luc, chapitre 6, 22, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. On retrouve toujours cette expression à cause du Seigneur, à cause du Fils de l'homme. Ce que l'on fait à cause du Seigneur et ce que les autres nous font à cause aussi du Seigneur à cause du Fils de l'homme. Le moyen de vivre ces situations, c'est sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur. Ésaïe disait au chapitre 8, verset 13, « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. » Dans nos cœurs, en nous, nous devons cultiver cette relation privilégiée avec le Seigneur. C'est à lui que nous devons obéir et nous soumettre. Nous n'avons pas à craindre le jugement des hommes. C'est Dieu et le Seigneur qui jugera de tout. Si nous vivons dans cette soumission au Seigneur, notre conscience sera bonne. Et du verset 18 à 22, il nous est parlé que Christ a souffert, qu'il est ressuscité, et il est maintenant à la droite de Dieu. Pierre nous replace devant la souffrance de Christ, sans arrêt dans cet épître, à plusieurs reprises. Il nous replace devant la souffrance de Christ, devant sa mort à la croix, pour nous. Mais ce paragraphe se termine par la gloire de Jésus après sa résurrection et son ascension. Il est à la droite de Dieu. Cette vision nous est donnée pour nous encourager. Alors, je vous laisse avec ce passage de Paul aux Romains. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Que Dieu nous garde.